Nous allons commencer ce deuxième cours en rendant hommage à M. Bedel, qui, le latin par la messe, un itinéraire linguistique et religieux, Gérard Bedel, donc c'est l'ancienne édition que j'utilise, Docenda, Agenda, Legenda, à Tournon-Saint-Martin, mais il faut savoir qu'il y a une autre édition qui a été faite aux éditions... de la librairie de Paris, je crois. Alors, nous allons prendre le chapitre 1, c'est-à-dire la grammaire, que je viens de vous distribuer aujourd'hui. Chapitre 1, la grammaire. Vous l'avez tous devant les yeux, le petit chapitre 1. Chapitre 1, grammaire, le système de la langue latine. Alors, Monsieur Bedel commence fort. Il commence par le confiteor. Le confiteor, qu'est-ce que c'est? C'est la prière de contrition. Qu'est-ce que c'est? Vous concassez vos péchés. Hein, vous imaginez que vos péchés sont des pierres et vous les écrasez à coups de maillet, à coups de masse, comme les Dalton. Voyez. Donc vous les détruisez et vous en faites de la poudre. Voilà. Et bien donc... L'acte de contrition, qui est « Mon Dieu, j'ai un regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » Il existe de manière différente dans différentes langues. Les Italiens ont un acte de contrition plus long. Voilà. Les Espagnols, les Américains ont un autre acte de contrition. Dans la liturgie catholique. Le confiteor, lui, a deux formes, puisqu'il a été simplifié dans la réforme liturgique de 1969. On ne donne plus la liste des saints qu'il y avait avant, on simplifie, on a quand même gardé la Vierge Marie, mais on n'a plus Saint-Michel, Saint-Jean-Baptiste, les apôtres Pierre et Paul, et donc, ici, on prend le confiteor complet, hein, celui qui a précédé. On va suivre dans un premier temps la méthode de M. Gérard Bedel, qui est un peu raide, hein, où il dit tout d'un seul coup. Donc moi, je vais répéter de très nombreuses fois. Hein. Mais ce qui est intéressant dans une grammaire extrêmement condensée, c'est qu'on va pouvoir tout de suite aller au texte. Nous allons étudier le système de la langue latine à partir du confiteor, parce que c'est une des prières les plus récitées, et parce qu'elle se prête admirablement, d'un point de vue grammatical, au propos qui est le nôtre. Commençons par lire attentivement le texte latin, élément par élément, avec la traduction française en regard, une traduction qui sert le texte au plus près, avec, entre parenthèses, un mot qui n'apparaît pas dans la traduction française courante, parce qu'il est inutile et même nuisible au bon français. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on traduit le latin, on ne traduit pas tout, parce que sinon la traduction serait trop lourde. Alors, on va essayer auparavant de lire le tableau de la prononciation. Avant de lire un texte latin, on essaye de voir un peu la prononciation. A-I-O se prononce A-I-O, comme en français. Le O moyennement ouvert, ça je laisse pour les puristes. Orabis, vous prierez. E se prononce toujours E, même s'il n'y a pas d'accent. N'est jamais muet, ni trop ouvert, ni trop fermé, pour les puristes. Deus, vous voyez qu'il n'y a pas un accent dessus. U se prononce ou, particularité, comme dans dou. Après q et gne, u forme diphtongue avec la voyelle suivante. Le groupe se prononce d'une seule émission de voix. Spiritu, quam, sanguis. Hein, mais ce n'est pas sanguis, ou sanguis, c'est la prononciation restituée, que je ne vais même pas vous apprendre, je crois, mais même si j'ai un tableau avec la prononciation restituée. Sanguis, voilà. C'est sanguis, prononciation italienne, romaine. A-E ou E-E, O-E se prononce E. Ah, ça, c'est une particularité, puisqu'on vous a dit que A se prononce A et E se prononce E. A-E, ça pourrait se prononcer A-E. Non, ça se prononce E. On ne dit pas Rosae, dans la prononciation restituée, on dit Rosé. Diphtongue prononcé comme E. Chelum, Pena. A-I. Ne sont jamais diphtongues. Faire entendre les deux voyelles en deux émissions de voix distinctes. Ah là, vous allez me dire, c'est différent. Oui, ce n'est pas pareil, comme dirait l'autre. Aït. A et I ne se prononcent, c'est une diphtongue qu'on ne prononce pas en latin, comme en français. Et. Donc, E ou J, c'est E, U. Hein, l'exemple n'est pas bon au début, vous avez un petit... Voilà, hop, c'est E, E, U. A, Y, A, U, E, I, E, U, ces diphtongues se prononcent d'une seule émission de voix. Raimondi, Laudate, La, ou... daté, mais c'est plus rapide. Ei, ei, c'est quand même pas aïe, vous voyez, mais c'est ei. Et euge. C se prononce comme en français devant a, o ou u comme une consonne. Credo. Par contre, dur devant A, O, O, U ou une consonne douce. Ou une consonne douce. Oui. Une erreur. Je me demande s'il n'y a pas une confusion avec la prononciation restituée. Le C qui se prononce tch, c'est devant E, I, O, Y. Tchéchilia. Un C qui se prononce T-C-H. Le T-C-H plus fortement prononcé, c'est le C dur. Etché. C-H se prononce K. Vous voyez. Oui. Alors là... Kéroubim. G se prononce dieu. Adjimus. Nye se prononce nye, comme dans agneau. Agnus. On ne dit pas agnus, on dit agnus. Donc vous entendrez parfois certains le faire. H, dans les seuls mots Mickey et Nikil, se prononce K. Vous voyez? J, ça n'existe pas en latin, c'est I en fait. Jesus major. On ne dit pas major en latin, on dit major. En fait, dans la vieille écriture latine, il n'y a pas de J. Voilà, adjutorium. M et N se prononcent M et N, mais on nasalise pas. C'est pas semper, c'est semper. C'est pas intende, mais intende. Ce n'est pas sanctus, c'est sanctus. Mais ça, c'est vraiment une nuance pas extraordinaire.
Un prêtre qui nasalise.
Oui. S, c'est comme le C doux, hein, Samuel. Deux S, dans le corps d'un mot, c'est festina. On prononce le S. Mais comme en français, quasiment. Par contre, le S entre deux voyelles se prononce avec un léger Z. Comme en français. Ou en français, c'est un Z plus fort.
Mais en latin, c'est un S. On dit Jesus.
On dit Jesus. Jesus. Mais Jesus. Jesus. On dit, nous, on dit Jésus. Et les latins disent Jesus. Jesus. Vous demanderez à Cicéron. Mais Kikero et Kekidi Kikero, il parlait peut-être la prononciation restituée. Donc si vous demandez à Cicéron, alors là, vous allez nager. SC comme que, pardon, comme che, charité, descendit. TI, chi, paciencia, etiam. Ostia, par contre, c'est une exception. X, xe, exaudi, exaudi. Vous voyez. Excelsis. Et Z, ce n'est pas un Z, c'est Zelus. Il y a un petit D avant. Tout ça n'a pas une immense importance. Pourquoi ? Parce que c'est à l'oreille qu'on suit le latin romain. Alors, nous allons faire un exercice de lecture.
Excusez-moi, mais comment on sait tout ça ? On a trouvé des enregistrements de l'époque ?
Oui, sur tablette en cire. Vous voyez ? Et donc, en ce qui concerne la linguistique, on a essayé de faire, en retrouvant la formation des mots, au lieu de Cecidi, Kekidi, la prononciation du temps des Romains. Cecidi, c'est une prononciation populaire, avec le temps, avec les siècles. Donc, actuellement, vous avez depuis, de manière très sereine, depuis plusieurs siècles, cette prononciation-là, donc on l'a retenue. On n'a pas fait de l'archéologie linguistique. Au XXe siècle, on a fait de l'archéologie linguistique, du coup, on se retrouve avec deux prononciations. Si vous reprenez la photocopie que j'ai faite sur un 800, un vieux livre de prières grégoriennes, nous allons exprès regarder uniquement les exemples. Alma. Alors, règle de la prononciation romaine du latin en vieille photocopie pas belle. Vous l'avez ? Alors, la vieille photocopie pas belle, vous l'avez ? Vous voyez, alors là c'est vraiment pas sympathique pour ceux qui ont des difficultés de vue, comme moi qui commence. Alma, bene, ibi, oleo. Hein, c'est en dessous de voyelle et diphtongue. Vous voyez ? Vous avez voyelle, A, E, I, O. Voilà. A, E, I, O. Alma, bene, ibi, oleo. Ensuite, vous avez Deus, meus. C'est sur la vieille, ici. Ici. Vous avez la vieille photocopie. Regardez mon doigt. Tigui, 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 tigui. Toc, toc, toc. Vous y êtes ? Deus, meus. Mon Dieu, Seigneur Jésus. Pourquoi ? Voilà. Deus, meus. Ensuite, on descend. Tantum, tendere, confundantur. Ambo, semper, compati. Pourquoi ces exemples ? Ce n'est pas tantum, tendere, confondantur, ambo, semper et compati. Vous voyez ? C'est tantum, tendere, confondantur, ambo, semper, compati. Compati. Vous me direz, hein, c'est pas. Tedium. A-E, c'est E. Tedium. Pena. C'est les mêmes exemples. Lauda. Euge. Ei. Ei, ça veut dire hélas. Ei, ei, ei. Voilà. Qui. Quae, quod, quam. Vous avez vu? Sanguis, langueo. Iam, maior, peius. Pro ut. Oui. Contuntur. Alors là, contuntur, ça, je connais, c'est être contraint, c'est, ils ont été, ils furent contraints, enfin, c'est horrible. Contuntur, c'est... Ait, il dit. Contraire. Raimondus, il vous donne la même. Et alors là, maintenant, on va aux consonnes, en haut. Cedo, hein, je cède. Cibus, la nourriture. Cimbalum, la cymbale. Cecilia, Cécile. Celum, le ciel. Ecce, Sicitas. Decendo, cado, credo. Pulcher, machina. Machina, c'est drôle, machina. La voiture en italien. Miki, niki, nikilum. Agere, agilis. Galea, gladius, gloria. Magnus, agnus. Eius, alors le i c'est un i, le j c'est un i. Hein. Eius, maior. C'est pas orientis, mais c'est orientis, compati, transire, Jesus, patientia, etiam, gratia. Excelsis, le X c'est comme un CK. Hein, et Zizania. Zizania.
Donc, en français, quand on dit un référendum, on devrait dire un référendum, normalement.
Oui, mais c'est la prononciation française.
Voilà, c'est ça.
Voilà. On s'approprie le mot. Alors, nous allons dire ensemble, après moi. Je dis une phrase et vous répétez. C'est pas confiteor, c'est confiteor. Mais bon, c'est pas très grave si vous dites confiteor. Alors, après moi... Hein. Sur la grammaire, le système de la langue latine, chapitre 1. Oui. Confiteor Deo omnipotenti. Confiteor Deo omnipotenti. Beate Marie Semper Virgini. Beate Marie Semper Virgini. Beato Michaeli Arcangelo. Beato Michaeli Arcangelo. Beato Ioanni Battiste.
Beato Ioanni Battiste.
Sanctis Apostolis Petro et Paolo.
Sanctis Apostolis Petro et Paolo.
Omnibus Sanctis et Tibi Pater.
Omnibus Sanctis et Tibi Pater.
Quia peccavi nimis,
quia peccavi nimis,
cogitatione, verbo et opere,
verbo et opere,
mea culpa, mea maxima culpa,
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam. Semper Virginem.
Semper Virginem.
Beatum Michaelem Arcangelum.
Beatum Michaelem Arcangelum.
Beatum Ioannem Battistam.
Beatum Ioannem Battistam.
Sanctos Apostolos Petrum et Paulum.
Sanctos Apostolos Petrum et Paulum.
Omnes Sanctos.
Omnes sanctos
et te pater,
et te pater.
Orare promé,
orare promé.
Ad dominum deum nostrum.
Ad dominum deum nostrum.
Mais il n'y a pas l'accentuation là.
Non, C'est pour les cancres. Oui.
Il y a une lettre qui n'est pas prise en compte, là, c'est le R. On peut le rouler légèrement. Pour
oui, mais les Français ont beaucoup de mal. Alors. Nous avons remarqué que le texte est formé de deux parties, séparées par le mea culpa. La deuxième partie reprend presque intégralement les mots de la première, mais légèrement changés. Les terminaisons des mots ne sont plus tout à fait les mêmes. Ce que nous avons mis en relief par l'emploi de caractères gras. Bon, je confesse à Dieu, à la bienheureuse Marie. Nous avons une suite de compléments d'attribution du verbe confesser. À qui, pour qui, contre qui. Ce n'est pas des compléments d'objet direct. Ce sont des compléments dits d'attribution ou compléments d'objet second. Ou compléments d'objet indirect. Je confesse à Dieu. Mais je confesse quoi? Mes péchés. Complément d'objet direct de je confesse et je confesse mes péchés. Oui. En latin, confiteor, ça veut dire je dis. Vous voyez, confesser, c'est parler. Vous voyez. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie. Ah, nous avons une suite de compléments d'objets directs du verbe supplier. Je confesse à quelqu'un, mais je supplie quelqu'un. Complément d'objet direct. Le nom Marie, lorsqu'il est complément d'attribution, ou complément d'objet second, ou complément d'objet indirect, s'écrit marié. Lorsqu'il est complément d'objet direct, il s'écrit Mariam. En français, c'est Marie, aussi bien dans un cas que dans l'autre. Ce qui fait que nous pouvons voir que la fonction grammaticale fait changer la forme du mot. C'est la seule chose qu'on doit retenir confusément. Parce que dans un premier temps, quand on lit le latin, quand on a la chance de connaître le français, qui est une langue latine, il faut simplement vivre les mots qu'on reconnaît. C'est la première des choses. Vous voyez. Beatam Mariam Semper Virginem, hein, Marie Vierge, toujours, Marie Vierge. Semper, qu'est-ce que ça peut vouloir? Sempiternelle remarque, toujours la même remarque, toujours vierge. Bon. Oui. Il en va de même pour Michaeli Arcangelo, qui devient Michaelum Arcangelum. Intéressant. Et c'est Michael. D'ailleurs, c'est pas Michaelum. Michaelem. Donc il y a une erreur ici. Hic erabit Gérardum Bedel. Bedelis. Voyez. Ici, c'est trompé le linguiste. Voilà. Pro omnibus sanctis. Pourquoi Michael étant Michaelem? C'est parce que c'est la troisième déclinaison qui est en M pour le complément d'objet direct au singulier. Pro omnibus sanctis, et pour omnibus sanctis qui devient omnes sanctos. Pour tibi qui devient T. Nom propre, nom commun, pronom, adjectif. Tous ces mots changent de forme selon leur fonction grammaticale. C'est ce qu'on appelle la déclinaison. En français, un nom garde la même forme, qu'il soit sujet, complément d'objet, complément du nom. On reconnaît sa fonction à la place qu'il occupe dans la proposition à laquelle il appartient. En français, hein. Et l'emploi abondant des propositions, des prépositions complètent la détermination de la fonction en français. Vous voyez. En latin, un mot peut changer de place sans que sa fonction soit affectée, surtout en poésie. Vous voyez. Mais, comment dire, Molière, dans Le bourgeois gentilhomme, à un moment donné, s'amuse à changer la place des mots. Hein? Marquise de vos yeux, vos beaux sont. Voilà. Voilà. Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. De mourir, vos beaux yeux, marquise, me font mourir, me font mourir. Voilà. Ou mourir me font. Mais si vous voulez, quand on change l'ordre des mots, Nous, en français, on est un peu décontenancé. Normalement, c'est sujet, verbe, complément. En latin, c'est sujet, complément, verbe. Le verbe est à la fin. Il y a d'autres langues où le verbe est à la fin. C'est pas l'allemand ?
Oui,
l'allemand. Hein. Ou le russe, peut-être aussi, non ? Quelqu'un est un espion de Poutine ici, il paraît qu'il y en a partout. Donc.
Il y a des mots qui savent l'utile aussi en latin.
Oui. Alors, nous pouvons parfaitement dire en latin Deo omnipotenti confiteor ou Deo confiteor omnipotenti. L'ordre des mots est souple. Vous voyez ? Bon. Le latin est une langue à flexion. L'allemand, le russe le sont également. La flexion est le procédé morphologique qui consiste à pourvoir la finale des mots d'éléments affixés ou désinences. L'ensemble d'une désinence, c'est une déclinaison qui exprime les catégories grammaticales, les fonctions grammaticales. Verbe, complément, sujet. Et ça, pour les verbes, nous, on change aussi la fin des mots. Mais sujet et complément, ça... La déclinaison est la suite de formes que prennent les noms, les adjectifs et les pronoms dans une langue à flexion selon les genres, masculin, féminin et neutre, car les latins étaient très modernes, vous voyez. Ils avaient précédé les législations modernes. En latin, le neutre, né ou terre, ni l'un ni l'autre, c'est parce que c'est né dans l'habitude, ni masculin ni féminin. Vous voyez, une chose ou une maison, par exemple. Un temple, ce n'est ni masculin ni féminin. Vous voyez. Le cœur n'est ni masculin ni féminin. C'est ni l'un ni l'autre, c'est le cœur. Voilà. Bon. Les nombres pluriels et singuliers. Et les cas, c'est les fonctions grammaticales. Le mot cas, c'est fonction grammaticale. D'où la troisième page de ce petit précis grammatical, les déclinaisons. Les différentes formes d'un mot dans la déclinaison s'appellent les cas. Et vous rajoutez fonction grammaticale. Il y a six cas en latin, au singulier et au pluriel, donc ça fait 12. Ça fait 12 formes, mais 6 fonctions grammaticales, 6 cas. Le nominatif est le cas du sujet. Je vous avais dit, c'était le nom par excellence, le sujet. Rosa est pulcra. La rose est belle. Alors là, il n'est pas très honnête. C'est rosa pulcra est en latin. Ça n'existe pas en latin. Rosa est pulcra. Le vocatif est le cas de l'interpellation. Rosa quam pulcra es, rose comme tu es belle. Vous voyez. L'accusatif est le cas du complément d'objet direct, vous rajoutez pour carpimus rosam, nous cueillons la rose. Vous voyez. Le génitif est le cas du complément du nom. Poeta, alors là il nous prend un... Poeta, c'est la théorie du genre latine. Le poète a une forme féminine. Et c'est masculin, quand même. Vous voyez ? C'est comme une loi moderne. Vous voyez ? Donc voilà. Poeta, laudat formam rosae. En masculin. Hein? Bonus poeta, un bon poète, loup. Alors formam, c'est la forme au sens étymologique du mot, la beauté. Hein? Il y a une prière à la Vierge Marie, c'est formosa. Formosa, c'est belle. Vous voyez? Et alors, le poète loue la beauté de la rose. Poeta, alors mettez bonus poeta exprès, mettez B-O-N-U-S avant poeta. B-O-N-U-S. Pour vous amuser déjà un peu, voyez ? Bonus poeta. Mais ça ne termine pas de la même façon. Us et A. Oui, mais poeta est exceptionnellement masculin, alors qu'il est dans la déclinaison des verbes, des mots féminins. Mais il y a une dizaine d'exceptions. Et le plus drôle des exceptions, c'est Nauta, le marin. Ouais, celui qui balance des paquets de 50 kilos sur le pont du navire.
Ouais.
Eh ben, je vous disais, vous dites pas c'est féminin, hein, un marin. Hein. Voilà. Voilà. Bon. Il y a d'autres trucs assez amusants. Et dont je ne me souviens pas maintenant. Le datif est le cas du complément d'attribution ou complément d'objet indirect. Deus dedit formam rosae. Dieu a donné la beauté à la rose. Ça, c'est joli. Mais vous allez me dire, c'est quand même la même chose que le génitif. Eh oui. Eh oui, c'est la même chose. Mais c'est pas le même sens. Oui. Et donc là, l'ordre des mots est faux. Hein, c'est Deus, rosae formam, dedit. Le vrai sens des mots. Hein. Vous mettez en dessous, en petit, si vous pouvez. Deus, rosae formam, dedit. Je sais pas. Là, il vous facilite la chose, c'est gentil. Mais un peu vite. Dieu donne la beauté à la rose. Dieu donne la beauté à la rose. Le vrai sens latin, c'est Deus rosae formam dedit. Le complément du nom est toujours avant le nom qu'il qualifie, contrairement au français, rien que pour vous embêter. Et le verbe termine la phrase. Mais en latin chrétien, pas forcément. C'est plus proche de l'ordre des mots français. Sauf quand c'est une poésie, alors c'est le proche de l'ordre des mots de on ne sait pas qui. Voilà. Tout est mélangé. Oui, mais là, c'est... On aurait pu traduire « Dieu a donné la beauté de la rose ». Mais là, Monsieur Bedel veut vous donner un exemple de datif pour vous troubler, puisque c'est la même apparence. Et de fait, le génitif et le datif ont la même apparence. L'ablatif est le cas des compléments circonstanciels. Rosa, statuam ornamus. Nous ornons la statue avec une rose, d'une rose, avec des roses. Voilà. Rosa, ou rosis pour le pluriel. Statuam, la statue, ça c'est compliqué comme vocabulaire, hein. Vous apprendrez par cœur, hein. Statue, statua. Vous voyez, c'est tellement éloigné du français, c'est vrai, c'est un vrai contresens, n'est-ce pas ? Donc vous voyez bien qu'il y a des mots qui sont vraiment très proches, et c'est la première impression quand vous écoutez un texte latin, accrochez-vous aux mots d'une langue latine comme le français. Tiens, il y a statue, statue, c'est pour moi. Rosa, rosis, statuam, ornamus. Remarque, apposition, c'est-à-dire mot posé à côté. Hein. Marie, reine des anges. Maria, angelorum regina. Mais regina et Maria sont au même cas, parce que c'est posé à côté, ça explicite le mot. Apposition et attribut du sujet, c'est quoi ? C'est le verbe être. On attribue une qualité. Jean est bon. C'est classique, il paraît depuis le pape Jean-Paul Ier, le bon pape Jean. Vous voyez ? C'est Jean 23. Le bon pape Jean 23. Et Jean-Paul Ier, lui, alors, il n'a pas eu le temps d'être bon. Voilà. Alors, attribut du sujet. Je deviens pape. Je, pape, c'est au nominatif. Il semble pape. Sembler, c'est un verbe d'état. C'est au nominatif aussi. Je ne vous donne pas ni je ni il, hein. Vous aurez remarqué. Ah, pas de mauvais esprit pendant un cours de latin. Il semble pape. Vous voyez, voilà. Apposition et attribut se mettent au cas du nom auquel il se rapporte. Le latin ne connaît pas l'article, ni le défini, ni l'indéfini, ni le partitif.